Je propose de repartir du point d'Étienne parce que je le trouve vraiment très intéressant. J'avais pas prévu du tout ce soir, mais ça me paraît quand même bien dans le thème. Donc, je vous disais, puis j'espère peu à peu vous le faire sentir, vous le faire vivre, que, en fin de compte, la philosophie réaliste, c'est la seule science qui vous donne des vraies certitudes. Je vais essayer de vous illustrer ça. Non seulement des certitudes vraies, mais en plus qui sont utiles pour construire notre vie. Hein. Alors, Étienne, donc on prend l'exemple du stylo. Si je le lâche, il tombe. Bon. Étienne me dit, la science nous donne une certitude, c'est que ça permet de calculer. On peut calculer pourquoi on peut deviner pourquoi il tombe, puis on peut calculer combien de temps il va mettre pour toucher le sol. Bon. 1,5 égale GT2, enfin bref. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous dit la science là-dessus. Alors, d'abord, quelle certitude de philosophie on peut avoir au sujet de cette expérience ? Bon, il y a déjà une chose, c'est simplement l'expérience elle-même, si tu veux. On sait par expérience que si tu lâches un stylo, il tourne. Alors déjà, donc ça c'est une chose, c'est le point de départ, c'est ce que toute réflexion s'appuie sur le réel. Donc ça c'est le point de départ, c'est le réel. Je sais par expérience que si je lâche le stylo, il tombe. Déjà rien que ça, c'est une certitude philosophique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de philosophes qui vont nier ça. Rappelez-vous l'histoire de la table, il y a beaucoup de philosophes qui vont refuser ça, qui vont dire j'ai l'illusion que le stylo tombe. Mais ils ne vont pas admettre que la réalité c'est que le stylo tombe. Alors ça peut vous paraître très bizarre parce que c'est absurde, mais je vous garantis que la majorité des philosophes vont refuser l'idée qu'on est certain que le stylo tombe. Alors évidemment en philosophie réaliste, Aristote, Saint Thomas, on accepte cette réalité, mais je vous garantis, ça peut vous paraître très bizarre, que beaucoup de philosophes vont simplement refuser ce point de départ. Ils vont pas admettre ça. Ils vont dire mais tu es dans l'illusion, tu crois que le stylo tombe, mais comment tu le sais ? Ils vont pas admettre ce réel.
Par terre.
Hein ?
Je ramasse par terre.
Oui, mais toi, tu as du bon sens, si tu veux, mais je te garantis que c'est pas si simple pour beaucoup de philosophes. Donc, prenons-nous dans. Comme je disais tout à l'heure, la vraie philosophie, elle est simple, en fin de compte. Donc, je pourrais vous décortiquer un certain nombre de philosophies qui nient cette réalité, mais mettons-les de côté. Donc, déjà, c'est un acte de philosophie parfait, assez profond d'accepter le réel. C'est-à-dire de dire, oui, c'est vrai, ce stylo tombe. Bon. Après, il y a d'autres certitudes que tu as comme philosophe, c'est que ce stylo, il tombe parce qu'il est en puissance de tomber. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose dedans, tu sais, tu es certain comme philosophe qu'il est en puissance de tomber. Tu sais aussi qu'il tombe parce qu'il y a un agent qui va le faire passer à l'acte. Je vais ouvrir mes doigts, le stylo tombe. Donc ça, c'est des certitudes. Tu sais qu'il est en puissance de tomber, tu sais qu'il faut un agent extérieur pour qu'il tombe. Il ne peut pas tomber tout seul. Tu ne peux pas décider tout seul qu'il tombe, ça t'en est sûr. Puis tu sais aussi une autre chose dont tu es absolument certain en tant que philosophe, c'est qu'il va retrouver son lieu. C'est-à-dire que le stylo, il va descendre en bas parce qu'en bas, ça correspond à sa finalité dans le cadre des lois de la nature. Ça, t'en est certain. Il va atteindre son point d'équilibre. Il va atteindre son lieu. Tu vois, il va atteindre ce pourquoi la nature l'attire, enfin. Il atteint son lieu de repos, quoi, son lieu optimum du point de vue de l'équilibre de la nature. Ça, t'en es sûr. On pourrait dire, je pense, d'autres choses en termes de philosophie, mais c'est déjà pas mal. Tu vois, de dire tout ça. Maintenant, ce que te disait la science, jusqu'en 1915, pour être précis, c'est que le stylo était attiré par la Terre. D'accord ? C'est la gravité de Newton. T'as la masse de la Terre, t'as la masse du stylo. D'accord ? Tu sais grâce à Newton que le poids du stylo il est proportionnel, enfin c'est mmg sur d2 quoi, hein, donc il est proportionnel à la masse du stylo, il est proportionnel à la masse de la Terre, il est proportionnel à la constante gravitationnelle qui ne fait 9,80 newton je crois par
80,
je crois. Et puis, c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, c'est une formule du genre petit m grand m g sur d carré. Bon. Et puis, avec ça, tu connais la force qui attire le stylo. Après, tu appliques tes lois de la dynamique. F égale m gamma. Puis, tu fais les dérivés, tu fais l'intégrale, blablabla. Tu calcules le temps, tu trouves un 8 GT2, tu sais exactement combien de temps ça tourne. Ça, c'est ce que disait Newton. jusqu'en 1915. Parce que c'était la théorie à l'époque qui permettait le mieux de modéliser la chute d'un stylo attiré par la masse de la Terre. Et puis depuis 1915, c'est-à-dire depuis Einstein, tu sais, si tu es au courant, que cette théorie est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. La Terre n'attire pas le stylo. Il faut modéliser ça dans un continuum espace-temps à quatre dimensions qui est modélisé par la relativité générale, qui décrit la trajectoire d'un objet dans un champ gravitationnel, et les équations ne sont pas du tout les mêmes que celles de Newton. Alors ça donne approximativement la même chose, mais en réalité le temps exact calculé par Einstein est légèrement différent de celui de Newton. C'est pas le même. Comme on dit, à une nanoseconde près, si tu veux, le stylo il n'arrive pas par terre selon la loi de Newton, mais selon la loi d'Einstein. Oui. Parce que, si tu veux, dans la théorie d'Einstein, il n'y a pas de force qui relie le stylo à la Terre. C'est décrit complètement différemment. C'est plus décrit en termes de force, c'est décrit en termes de trajectoire dans un espace à quatre dimensions. Enfin, je ne vais pas passer deux heures là-dessus, mais c'est pour dire que la théorie scientifique, elle a évolué. On a affiné notre modélisation du réel. Et on est un peu moins faux qu'avant. Mais ni Einstein ni Newton ne te donnent une certitude. Ils te donnent un modèle mathématique qui te permet de prédire une quantité.
Oui, mais le modèle mathématique qui permet de prédire la quantité de temps qui s'écoule entre le moment où on lâche et le moment où ça tombe.
Oui, complètement.
Mais la science, elle peut aussi nous. Elle permet aussi de nous rendre compte que si on lâche le stylo, il se dirigera bien vers le centre de la Terre.
Mais ça, c'est l'expérience qui te dit, c'est pas la science. La science permet de modéliser le phénomène, te permet de mettre en équation.
Oui, mais par exemple, là on le sait parce qu'on est sur la Terre, mais on sait aussi que ça marche à proximité de n'importe quelle planète. Alors qu'on n'y est jamais allé.
Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Je pousse un peu le raisonnement. Ce que j'essaie de dire, c'est, alors disons pas plus précis, tout l'aspect quantitatif de la science, il est approximatif. Il n'est pas vrai, il est approximatif. Oui. Tu vois ? Et même l'aspect causal, il est approximatif. Puisque chez Newton, la cause de la chute du stylo, c'est l'attraction de la Terre. Einstein a montré que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'attraction entre le stylo et la Terre. C'est pas comme ça que c'est modélisé dans la théorie d'Einstein. Il n'y a plus de causalité de force. C'est une autre modélisation. C'est la trajectoire d'un objet dans un champ à quatre dimensions. C'est plus du tout une force. Donc même la relation causale, elle n'est pas décrite de la même manière dans la théorie de Newton et dans la théorie d'Einstein, pour un truc aussi simple qu'un stylo qui tombe. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ça me passionne la science. Hein. Mais c'est juste pour dire que la science, en fait, elle est limitée par ses instruments. C'est ça qu'il faut voir. Dès qu'on fait de la science, on est limité par des mesures instrumentales. Donc la science, plus les instruments sont précis, ben plus elle progresse. Et pourquoi Einstein a révolutionné complètement la théorie gravitationnelle de Newton, c'est à cause de certaines mesures qui ont été faites par Morley et Michelson fin 19e, qui ont montré que ça ne collait pas. Puis bon, ils ont développé la théorie, puis ils ont trouvé autre chose. Enfin, Einstein a trouvé autre chose. Donc en fait, la science, elle est dépendante de la précision instrumentale. Puis le but de la science, c'est d'expliquer les phénomènes en termes causal et en termes quantitatifs, mais en s'appuyant sur les indices que lui donnent des instruments. Et au fur et à mesure que le temps avance, les instruments sont de plus en plus fins, puis donc la science, elle progresse, elle s'affine. Alors que le philosophe, il va essayer de prendre le réel dans sa totalité, dans sa globalité. Et c'est pour ça qu'il peut trouver des choses plus certaines que la science. Parce qu'il ne mesure pas, il décrit les choses d'une manière globale, d'une manière au niveau de l'être, si tu veux. Quand je dis que le stylo va rejoindre son lieu de repos naturel, ça sera toujours vrai, ça c'est vrai. Après, qu'est-ce que ça veut dire en détail? C'est la science qui peu à peu transpire pour essayer de mieux le comprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est juste un autre niveau d'analyse du réel. Par exemple, si je prends un autre exemple, je vais essayer de décrire n'importe quoi, Jean-Nicolas, voilà. Je vais le décrire. Bon. Bah, si vous y réfléchissez, c'est marrant, j'ai fait cet exercice en classe il n'y a pas longtemps avec des élèves. Je leur ai dit de que chacun fasse une liste sur un papier, en étant philo petit, de 10 ans, j'aurais dit de faire une liste des points importants de ce qu'ils sont. Donc ils auront à 10 points, ils ont pris sur une feuille, puis j'aurais dit marquez 10 points de ce que vous êtes. Donc ils ont mis je suis un garçon, je suis une fille, j'ai les cheveux bruns, je joue du foot, enfin, etc. Ils ont mis 10 points, vous pouvez faire l'exercice, hein, vous marquez 10 choses qui vous définissent. qui permettent de vous reconnaître. Comme on a fait l'exercice, j'ai pris des feuilles, elles étaient anonymes, puis je lisais les... Non, j'avais pas fait 10, j'avais fait 5 points, parce que c'était trop long. J'avais lu les 5 points, puis la classe devait savoir qui c'était. Alors je disais, c'est une fille. Alors, bon, je les ai fait... Enfin, ils étaient tous debout, puis je dis, c'est une fille. Alors tous les garçons se baissent, puis après, je dis, c'est une fille qui aime les chevaux. Donc les filles qui aimaient les chevaux sont restées debout, puis peu à peu, on s'est rendu compte qu'avec 3 caractéristiques, 4 maximum, on trouvait la personne. Sur 20 élèves, en 3-4 caractéristiques, on trouvait la personne. C'était, je voulais leur faire toucher du doigt qu'ils étaient uniques. C'est ça que je voulais leur faire toucher du doigt. Après, je leur ai dit maintenant, quelle longueur de papier il faudrait pour vous définir complètement. C'est-à-dire pour qu'on sache vraiment tout de vous. Voilà, je leur ai posé cette question, je vous la pose à vous. Quelle quantité de papier, de livres il faudrait écrire pour qu'on sache tout de vous, qu'on sache tout de Gabriel, tout de Nicolas, vraiment tout, de Jean-Nicolas, vraiment tout. Qu'on sache tout, quoi. La longueur de chaque cheveu, ton histoire, chacune des...
Même nous, on ne sait déjà pas tout de nous.
Mais non, des fois. Bien sûr. Donc la réponse à votre avis, c'est quoi la réponse?
C'est infini.
C'est pratiquement infini. Parce que non seulement il faudrait décrire la position de chaque atome, mais en plus la position, les relations entre tous les atomes, il faudrait écrire toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après. Enfin, c'est rigoureusement infini. Enfin, je ne sais pas si c'est rigoureusement infini, mais...
Et puis on arrive à Dieu.
À la limite, oui, il faudrait même décrire Dieu pour décrire une personne. T'as raison. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la science, enfin, si on essaie de rentrer dans le détail de ce qu'est une chose, ça n'arrivera jamais. Par contre, le philosophe, il a une certitude concernant Jean-Nicolas ou concernant Gabriel. Je sais que tu es ce que tu es et que tu n'es pas autre chose. Et que lui, c'est pas toi. Et que toi, c'est pas lui. Et ça, j'en suis absolument certain. Et je sais que ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu n'es pas autre chose en même temps. Tu n'es pas à la fois quelque chose et quelque chose d'autre. Ça, c'est une certitude que j'ai en tant que philosophe. Et c'est une certitude beaucoup plus solide que de savoir qu'est-ce qu'il est exactement. Ça, j'en sais rien. Ça, je vais mettre des années pour l'étudier, pour le connaître. C'est ça l'amour, en quelque sorte. C'est d'apprendre à connaître quelqu'un. Et tu mettras. Moi, je ne connais pas encore un, dans un sens. Pas encore qu'on est marié, dans un sens, on ne se connaît pas. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qu'on aime. Quoi. Bon, mais en même temps, elle est ce qu'elle est. Ça, j'en suis certain. Et moi, je suis ce que je suis.
Un jour, peut-être, on se fâchera. Hein. On ne s'est jamais fâché, on n'a jamais fait.
Mais tu vois, les certitudes ne sont pas au même niveau. C'est vrai. Je ne sais pas si tu le fais. Bon, bref. Alors, on reprend. Bon alors, tout à l'heure je vous ai dit que je parcourrai systématiquement dans les séances qui viennent 4 points. Qu'est-ce qui me rappelle? Voilà, premier point, on fera toujours une petite réflexion de philo. Deuxième point, le génie humain. Qu'est-ce que c'est que le génie humain? Troisième point, la science. Puis troisième point, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu? J'ai appris l'exemple qui était. Alors, les grandes étapes de alors, je vous propose, pour explorer Dieu en quelque sorte, de suivre les étapes de saint Thomas d'Aquin. Ça s'appelle les 5 voies de l'existence, les 5 preuves de l'existence de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça quand même, non? Donc, plus ou moins. Donc, saint Thomas, il a découvert, il a mis en lumière les 5 preuves, ce qu'il appelle. Alors, lui, il n'appelle pas des preuves, il appelle ça les voies pour accéder à Dieu. Enfin, c'est plutôt, plus que des preuves, c'est des voies d'accès à Dieu. Et. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 grandes manières de découvrir Dieu, c'est soit en observant le réel, soit en observant l'être humain, cette capacité extraordinaire qu'on a à observer, à comprendre. Donc, les points de saint Thomas, ça ne concerne que le réel, ça ne concerne pas l'être humain. Ça, on en parlera après. Pour l'instant, on va se concentrer sur les 5 dimensions du réel qui révèlent Dieu. Bon, l'être humain, on laisse un peu à part pour l'instant. Enfin, on en parlera dans le génie humain, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est de comprendre ce que dit saint Thomas. Alors, moi, je ne prends pas le même ordre que saint Thomas, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais la manière dont je vais vous le présenter, je trouve que c'est plus logique. Peut-être que dans 10 ans, je me dirai, ah ben non, mais saint Thomas, il avait raison, c'était plus logique le sien. Mais pour l'instant, je vous le présente tel que, pour moi, enfin, je préfère parler de ce que je comprends, de ce que je trouve logique. La manière dont je vais le présenter, ce n'est pas le même ordre que lui, parce que pour moi, c'est plus logique, je trouve que c'est plus simple. Non, mais je vous le dis au bon point. Alors, vous pouvez juste noter le plan, on va à peine commencer ce soir, mais au moins vous pouvez noter le plan. La première voie, c'est ce qu'on appelle la voie par la contingence des êtres. On a déjà largement traité, en fait. Hein. c'est-à-dire, c'est au fond, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, la contingence des êtres. Autrement dit, le fait qu'on est entouré d'êtres évanescents qui peuvent ne pas exister, et ça nous évoque l'existence de Dieu. Hein. Donc c'est la première voie. On a fait plus ou moins la dernière fois. Contingence, ça veut dire qu'il peut ne pas exister. Un être contingent, c'est un être qui peut ne pas exister. Les lunettes, elles sont contingentes. Elles pourraient ne pas exister. Là. Le seul être qui n'est pas contingent, c'est Dieu. Il est nécessaire. Il ne peut pas ne pas exister. Voilà. La deuxième preuve, c'est la preuve par le mouvement. Donc c'est l'observation du mouvement dans le monde, de l'énergie, disons. Je ne vais pas le traiter maintenant, mais je vous donne le plan. Donc premier point, la contingence. Deuxième point, la preuve par le mouvement. Troisième preuve, la preuve par la causalité. C'est l'organisation des causes dans le monde. On a déjà un petit peu parlé du principe de causalité, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc la preuve par la causalité. Troisième preuve, c'est un peu la preuve de la Ferrari, c'est la preuve par l'ordre du monde. C'est la quatrième preuve, la preuve par l'ordre du monde. On l'a un peu traité avec le coup de la Ferrari, de la tasse à café, dans l'histoire, qu'il y a de l'ordre dans le monde, d'où il vient. Et puis la dernière preuve, on en a aussi un petit peu évoqué, c'est la preuve par la finalité. C'est-à-dire que le monde, il est orienté. On voit qu'il est finalisé, qu'il a un but.
On avait parlé de hasard.
Voilà, exactement. Quand on a discuté du hasard, si vous vous rappelez, je vous ai expliqué que le hasard, il est fécond s'il est finalisé. Le hasard, il est fondamental, mais il faut qu'il ait une finalité, il faut qu'il soit orienté vers un but.
Le hasard n'existe pas. Le hasard pur, il n'existe pas.
Alors, si, il existe, mais il n'est pas fécond. Il est fécond que s'il est finalisé.
Oui, mais de toute façon, le hasard qui est légitime, il est finalisé par Dieu.
Voilà, ça c'est vrai. Ouais. Donc je reprends les cinq preuves de l'existence de Dieu, c'est la preuve par la contingence, preuve par le mouvement, preuve par la causalité, par l'ordre du monde et par la finalité. Chez saint Thomas, l'ordre est un peu différent, mais je prends quand même les cinq points parce qu'ils sont, super. Je vais conclure. C'est pas mal finalement, c'est très bien. Je conclue par un petit truc tout simple. Et puis la prochaine fois, on attaque la suite. Mais je vais conclure par un truc très simple. Il y a tous ces points, ils ont un point commun. Et à limite, ce que je vais vous dire maintenant, c'est une sorte de résumé global de tous ces points, de toute la pensée de saint Thomas sur ce point, sur cet ensemble de points. Il y a quelque chose qui émerge qui est très simple. On peut tout résumer en disant, dans le monde, il y a des choses merveilleuses. C'est tout simple. Dans le monde qui nous entoure, il y a des choses merveilleuses, il y a des êtres merveilleux, il y a des réalités qui sont extraordinaires. Alors je ne vais pas détailler plus, mais chacun peut peut-être penser dans son esprit à une chose qu'il a vue, je ne sais pas, un coucher de soleil, un flocon de neige, un être humain, un artiste, une réalisation, un film, n'importe quoi, mais on est entouré de choses extraordinaires. Et en même temps, on voit bien que toutes ces choses sont limitées, qu'elles sont imparfaites. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, on constate qu'il y a beaucoup de merveilles dans le monde, mais en même temps, il y a beaucoup de limites.
Elles peuvent être
pratiquement, fondamentalement, tout est éphémère. Une fleur, c'est extraordinaire, mais sa femme, un amour humain, c'est merveilleux, mais bon, ça dure 100 ans, quoi, ça dure pas 1000 ans, etc. Donc on est en face de merveilles qui sont en même temps éphémères. Et les preuves générales, disons.
Enfin, quand tu dis un amour humain, ça dure 100 ans. Mais dans la Bible, le Christ, il a dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel.
C'est vrai, c'était peut-être pas un bon exemple dans la perspective. Non, mais t'as raison, dans la perspective de la foi, c'est différent. Mais disons, à vie humaine, sur terre, tu vois, tout ce que tu observes, c'est quelque part, c'est décevant. Quoi. C'est à la fois magnifique et décevant. Tout ce qu'on observe, c'est. Parce qu'on reçoit de plus, donc on est à la fois émerveillé et déçu en quelque sorte, on aimerait plus en même temps. En même temps, c'est merveilleux. Et au fond, le schéma général des preuves de l'existence de Dieu, c'est que le parfait, le merveilleux, ne peut pas venir du néant. C'est simple. Quand on voit un truc qui est merveilleux, comme une fleur ou un grain de sable ou un être humain, ça ne peut simplement pas venir du néant.
Et tu n'avais pas dit que le néant, en fait, n'existait pas ?
Oui, bah en plus, oui. Donc, mais je veux dire que l'ordre ne peut pas émerger du désordre, quoi. Ça revient à ça finalement. Hein. Le merveilleux ne peut pas émerger, le parfait ne peut pas émerger de l'imparfait, on peut dire ça finalement. ce qui est merveilleux ne peut pas émerger de ce qui est médiocre sans qu'il y ait une intervention. Et le parfait ne peut pas émerger de l'imparfait sans qu'il y ait un agent, sans qu'il y ait une intervention. Donc il existe un être parfait, infiniment parfait et merveilleux, qui souffre de toutes choses. Ça, c'est le schéma général finalement. Donc, ça fait, c'est pas mal comme
truc. Juste, vous avez parlé de faire une expérience.
Est-ce qu'on a le temps? Je vous le fais si vous voulez, mais ça, il faut 5 minutes.
Toute
chose est bonne mais pas parfaite. Donc il y a une source. Il y a une source à cette bonté qui est externe, tu vois. Je veux bien vous faire cette petite démonstration là. Il me faut 10 minutes. Tu vois, 10 minutes. Vous repartirez avec une expérience. Oui, ça vous intéresse?
Si.
Vous repartirez avec une expérience physique. Est-ce que vous êtes... Je vais vous faire faire le raisonnement de Parménide. Parménide, c'était un philosophe grec. Je crois que c'était un pré-socratique, il me semble, donc c'était avant Socrate, et qui était fasciné par la par le fait qu'il y ait du réel. Alors, on va faire le raisonnement de Parménide et vous allez repartir de cette soirée avec une certitude. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des choses?
Oui.
Ben, c'est pas un point de départ trop exigeant. Il y a des choses, quoi. Il y a une lit, il y a des lunettes, il y a le tapis, il y a des choses. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus?
Vous
allez être sûr et certain. Ok, donc ça c'est déjà une certitude. Deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord que s'il y a quelque chose, ça ne peut pas sortir du néant? C'est-à-dire, si on imagine qu'il y a du néant, rien, il ne peut pas. Je vous fais le raisonnement par mes guides. C'est impossible de concevoir que du néant émerge quelque chose. Il n'y a rien, vraiment rien. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est une certitude sur laquelle on peut s'appuyer? Ou si par hypothèse on observe du néant, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais imagine qu'il y ait du néant, c'est pas possible que quelque chose émerge. D'accord? Bon. Or, il y a quelque chose. On a bien dit ça, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il existe un être qui est éternel et qui a toujours existé. Alors, je vous montre. Imaginez qu'à un moment, il n'y ait eu rien. D'accord? Aujourd'hui, il n'y aura rien. Est-ce qu'on est d'accord? Si on imagine que dans le passé, il y a eu un moment où il n'y avait que du néant, il n'y avait rien. Nécessairement, aujourd'hui, il n'y aura rien. Est-ce que ça vous donne un raisonnement? Or, il y a quelque chose. Donc, il y a toujours eu un être. Donc, il y a un être éternel. Il existe une matière, un être qui est éternel.
Tu peux redire éternel?
C'est ça, il y a toujours eu quelque chose. Donc ça veut dire que dans le maths, ça veut dire que dans le réel qu'on observe, il y a un être qui est nécessaire et éternel. Parce que s'il n'était pas nécessaire, s'il n'était pas éternel, ça voudrait dire qu'il y a une époque où il n'y avait rien. Et si on peut imaginer qu'à une époque il n'y avait rien, il n'y aurait rien aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on peut parler d'époque puisque Dieu est intemporel?
Non, mais je parle même pas de Dieu là, je te parle de philosophie là. Je te parle juste j'observe le réel. Je suis Parménide, j'observe le réel. Parménide, par ce simple raisonnement, il a dit donc qu'il existe une matière éternelle.
Tu peux redire juste les enchaînements des questions?
Non, mais c'est tout simple.
Non, mais tout droit.
C'est très simple.
Il y a des choses.
Il y a quelque chose.
Ne peut pas naître du néant.
Quelque chose ne peut pas naître du néant. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc il existe une matière éternelle. Il existe un être éternel. C'est certain. C'est pas possible autrement. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas un être éternel, ça veut dire que tu envisages qu'il y a une époque où il n'y avait rien.
Mais si on envisage un être nécessaire, qu'est-ce que c'est lui-même?
T'es obligé, c'est une conclusion nécessaire de la philosophie. Dès que tu réfléchis un minimum, t'es certain qu'il y a un être éternel. T'en es sûr. C'est pas possible autrement. Parce que s'il n'y a pas un être éternel, s'il n'y a pas de l'être éternel, ça veut dire qu'il y a une époque où il n'y avait rien. Mais s'il n'y avait rien à une époque, il ne va rien y avoir aujourd'hui. Donc s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un être éternel, c'est certain.
Mais hors du temps, on est obligé, on peut pas.
Il y a un être éternel. Et ce qui est marrant, c'est que tous les athées sont d'accord là-dessus. C'est pas, parce que tu ne peux pas raisonner autrement.
Qui l'a dit ça? Les athées, je veux dire.
Ils sont obligés. Donc, pour eux, ce qui est éternel, c'est l'univers. Donc eux, ils disent que la matière est éternelle, que l'univers est éternel. Ils sont obligés. Il n'y a pas d'autre solution. Donc tu es certain, en tant que philo. Là, c'est intéressant, ce n'est pas de la science, c'est de la philo. Dans le philo, tu es certain qu'il y a un être éternel. C'est pas possible autrement. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas un être éternel, ça veut dire qu'il y a une époque où il y avait du néant. Mais s'il y a eu du néant une époque, il n'y a plus rien. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui n'avait que du néant. Donc tu es certain qu'il y a un être éternel. Il y a des dimensions dans la matière, dans la réalité, qui est éternelle.
Donc tout revient au principe de causalité, finalement.
Tout revient au principe de causalité. Mais c'est intéressant, c'est une vraie certitude. Personne ne peut nier ça. Aucun athée ne peut nier qu'il y a un être éternel. Après, le seul choix qu'on a, c'est est-ce que c'est éternel, c'est Dieu, c'est qu'est-ce qu'il y a en dehors du monde, ou est-ce que la matière elle-même est éternelle,
hein? Est-ce qu'il vous aime?
Bon, ça, c'est autre chose. Mais, ou est-ce que la... Alors, Démocrite, par exemple, lui disait, ok, Parménide, t'as raison, mais ce qui est éternel, c'est les atomes. Les atomes sont éternels. Parce qu'il voyait bien qu'il y avait nécessairement quelque chose d'éternel. Donc, il disait, ben, les atomes sont éternels. Non, nous, on sait que c'est faux. Les atomes ne sont pas éternels, ils sont immergés de l'énergie du Big Bang.
Mais comment ils s'éteignent, les atomes?
Bon. Non mais donc normalement, si vous avez compris le raisonnement, vous partez de cette soirée avec la certitude inébranlable, indiscutable, qu'il y a un être éternel. C'est absolument certain. Et personne ne peut contester ça. Aucun athée, personne ne peut contester ça. Après, la seule chose qu'on peut discuter, c'est quelle est sa nature. Est-ce que cet être éternel, est-ce que c'est la matière qui est éternelle? Est-ce que c'est les atomes? Est-ce que c'est Dieu qui est en dehors? Est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, on est certain qu'il y a un être éternel. C'est pas mal quand même. Mmh.
C'est rapide et c'est efficace.
C'est simple. Hein.
Ouais.
Alors j'ai pas prouvé que Dieu est une personne et tout ça, hein. Mais c'est quand même quelque chose.
Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé du Big Bang. En fait, le Big Bang, il n'y a pas de chose. En fait, il est.
Là, il faudrait distinguer, ça c'est intéressant, parce qu'il faut distinguer la réalité du Big Bang et la théorie.
Dans la théorie
mathématique du Big Bang. T'as pas, si tu veux, dans la théorie mathématique du Big Bang, ils s'en sortent en modélisant, enfin c'est une asymptote si tu veux, donc il n'y a pas de point de départ parce que c'est une asymptote à l'infini. Et ça, c'est des maths. Mais dans le réel, t'es bien obligé de dire que s'il y a quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Le Big Bang, il va pas émerger de rien, il émerge de quelque chose.
Ou bien si on arrive à prouver qu'il n'y avait vraiment rien avant, ça veut bien dire qu'il y a. Un être qui n'est pas physique, enfin un être
mais de toute façon, ça revient à dire qu'il y a quelque chose, ça revient à dire alors, que soit Dieu existe, soit dans la nature, dans la matière, il y a quelque chose de divin. Ça revient à ça en fait. C'est-à-dire que soit tu prends Dieu comme un personnage, une personne autonome qui a créé, soit tu attribues à la matière quelques caractères divins, mais tu es obligé. C'est-à-dire l'éternité, tu es bien obligé de dire que la matière est éternelle. Sinon, tu es obligé d'admettre qu'à un moment, il n'y avait rien. Et s'il n'y avait rien, il peut y avoir quelque chose. C'est intéressant, quand même. Donc ça, c'est une certitude de philo. Il y a quelque chose dans la matière qui est, ou dans l'être qui est éternel. Soit la matière, soit Dieu. On en est sûr.
Et c'est vrai que ça ouvre... Parce que de se dire que la matière est éternelle, enfin, c'est... Donc, enfin, pour moi, ça me donne encore plus que... ça me donne encore plus la certitude que Dieu existe. Parce que se dire que la matière est... Il est là depuis toujours,
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette certitude-là, normalement, vous pouvez la partager avec n'importe qui réfléchit un minimum. Vous discutez avec n'importe qui, c'est on ne peut pas penser autrement que ça.
Parce qu'on va toujours
c'est une certitude philosophique certaine. Et c'est Parménide c'est lui dont on connaît le texte qui dit ça, et il a raison. Soit la matière est éternelle, soit il y a Dieu. Mais il n'y a pas d'autre hypothèse possible. Pas mal quand même. Non, ça va?
Je suis
pas convaincu. Qu'est-ce que t'as d'autre que l'hypothèse?
Non, mais ce que je comprends pas, c'est que si l'être est éternel, mais s'il est nécessaire aussi.
Et ben, c'est Dieu.
Oui, mais s'il est nécessaire, ça veut dire qu'il peut aussi se créer de rire. Parce qu'il a besoin de.
Non, ça veut dire qu'il a toujours été. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de moment où il y avait le néant. Il a
toujours ça, c'est dur comme logique à comprendre.
Il est. Tu peux conclure que
pas début, tu vois.
Tu peux imaginer que c'est la matière qui est éternelle. C'est ce que pensent les athées. Mais ils pensent que la matière est éternelle. Mais ils sont assez embêtés par le Big Bang parce que c'est compliqué de trouver de matière. Tu vois, ça c'était facile. C'est intéressant parce que la matière éternelle c'était facile à soutenir jusqu'en le Big Bang c'est quoi 1930 un truc comme ça. Jusqu'à 1930 par là c'était assez facile de soutenir que la matière était éternelle. Alors ce que vous ne vous rendez pas compte c'est qu'à l'époque tous les scientifiques étaient certains que la matière était éternelle. C'est normal, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc avant 1930 tous les scientifiques disaient la matière est éternelle, l'univers est éternel, il a toujours été. Du coup ils n'avaient pas besoin de Dieu. Mais c'était vraiment presque un dogme, alors que c'est pas de la science, c'est de la philo. Mais ils étaient contraints, le raisonnement philosophique les obligeait à penser la matière comme éternelle, parce que t'as pas le choix. Soit c'est la matière qui est éternelle, soit c'est Dieu. Mais c'est obligé que c'est un des deux. Et donc ils disaient la matière est éternelle. Et puis il y a un mélange de dire c'est un prêtre, enfin peu importe l'histoire, mais bref, on a prouvé le Big Bang. Alors là, ils ont commencé à être c'est compliqué. Là. Si la matière était éternelle, mais qu'il y a le Big Bang, alors bon, ils sont obligés d'inventer des trucs où ça rebondit, enfin ça micronne Big Bang. On ne sait plus trop de quoi on parle, mais c'est un peu flottant leur truc, parce que c'est dur de parler de matière éternelle dans le scénario du Big Bang. Mais ils sont coincés. C'est un raisonnement que personne ne peut raisonner autrement. Soit la matière est éternelle, soit il y a Dieu. De toute façon, ça, c'est, il n'y a pas d'autre hypothèse possible. Non ?
Mais vu que toute chose est Dieu, et ben.
On est fatigué.
Et ben, la matière est éternelle, donc en fait.
Oui, mais là, tu parles en croyant. Moi, je ne te parle pas en croyant, je te parle en philosophe. Parménide, il n'était pas croyant. Parménide, il a observé la cruche sur sa table, il en a déduit que la matière est éternelle. C'est quand même fort. Il a raison. Il a raison.
En fait, l'expérience, elle permet juste de conclure qu'il y a quelque chose qui est éternel, mais il n'y a pas de caractéristiques.
Oui, mais c'est déjà pas mal.
Oui, enfin, qu'il y a une chose.
Si tu vas repartir de cette soirée avec une certitude philosophique, t'as pas besoin d'instruments. Oui, mais c'est déjà pas mal quand même. Oui. Non, t'as pas besoin d'instruments, t'as pas besoin de mesures, t'as pas besoin de calculs, t'as même pas besoin d'aller à l'école.
Juste de logique.
T'as juste besoin d'un peu de logique et d'avoir confiance dans ton intelligence. Si t'as confiance dans le fonctionnement de ton intelligence et de la logique, tu repars de cette soirée avec la certitude qu'il y a quelque chose d'éternel. Ben, c'est pas mal.
Oui, c'est...
Je dis pas qu'on a fait trop la question, mais c'est pas mal. Quand même.
Oui,
et cette certitude-là, c'est ça que je veux te faire sentir. Cette certitude-là, elle est beaucoup plus solide que le calcul de la chute d'un corps.
En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que s'il y a quelque chose qui est éternel et qui a Dieu, alors Dieu est éternel. Mais l'expérience, elle permet juste de dire qu'il y a une substance dont une des caractéristiques, c'est d'être éternel.
Absolument. C'est exactement ça. C'est une expérience de pensée, c'est un raisonnement philosophique qui te permet de conclure de manière certaine, et tu peux le partager avec n'importe quel être humain, qu'il y a une substance éternelle. T'en es sûr. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et cette certitude est beaucoup plus solide que le calcul de la chute du stylo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'essaie de vous faire sentir.
Parce que sur la
ligne,
ton stylo.
Sur la ligne, mon stylo. Bon, c'est pas mal comme chute. Hein. On m'arrête avec ça. Allez.